en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Nous allons donc ouvrir notre séance. Le premier point de l'ordre du jour est l'approbation du procès-verbal de la séance du 6 février. Est-ce que ce projet de procès-verbal appelle des observations ? S'il n'en appelle pas, il est approuvé. Monsieur le perpétuel, la correspondance.
Alors, nous avons aujourd'hui un certain nombre de confrères qui ont demandé à être excusés à cause de maladies pour un certain nombre d'entre eux. Jean Béchler, Marcel Boiteux, Gabriel Debreuil, Jean Cluzel, Chantal Delsol, Alain Duhamel, Yves Gaudemet, Gilbert Guillaume, Denis Kessler, Emmanuel Leroy-Ladurie est ici. Pardon, on avait noté qui. Pardon. Il est bien là. Thierry de Montbrial, Bertrand Saint-Cernin, François Théré, Jean Tirole et Jean-Claude Trichet. J'en profite pour vous donner de meilleures nouvelles de Jean Cluzel qui est rentré chez lui. Ah. Voilà.
Merci. Y a-t-il des dépôts d'ouvrages ? Je vous en prie, chers confrères.
Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de notre académie une réédition, je le précise, mais qui est utile, et vous allez comprendre pourquoi elle est particulièrement utile. Il s'agit de l'ouvrage de Jean Guiton, « La pensée et la guerre », publié en 1969 et qui réunissait un certain nombre de conférences prononcées par l'auteur durant les années précédentes à l'école de guerre. Et cette réédition est en elle-même utile. Et d'autre part, chacune des différentes conférences a été précédée d'une introduction, explication mise à jour par différents enseignants civils ou militaires de l'école de guerre, y compris d'ailleurs votre serviteur. Il y a ainsi des conférences, sont maintenant des chapitres accompagnés d'introductions très utiles sur Hitler et la guerre, sur Foch, la pensée militaire, sur Hegel et les questions de la guerre, n'est-ce pas ? Également sur les rapports entre la pensée et la conduite de la guerre et pour finir, sur la philosophie de la dissuasion nucléaire, un texte qui est d'une particulière actualité à mon avis. Voilà l'ouvrage que j'ai l'honneur de vous présenter, que je remettrai d'ailleurs effectivement à la bibliothèque de notre académie.
Merci, Georges-Henri Soutou. D'autres dépôts d'ouvrages ? J'ai un ouvrage à déposer qui est l'ouvrage de Jean-Noël Contensou, Proust et le chat de Schrödinger. Cet ouvrage a été préfacé par notre regretté confrère Bernard d'Espagna. Chercher une réalité matérielle indépendante de nos impressions flottantes est un des buts de la physique classique. C'est ainsi que dans une démarche analytique, celle-ci est partie dans l'exploration de l'infiniment petit des atomes et des particules. Cette démarche a débouché sur la physique quantique. La matière dépend du regard de l'observateur, n'a pas de réalité en soi. C'est le paradoxe du chat de Schrödinger qui serait à la fois mort et vivant tant qu'on ne le regarde pas et qui aurait donc une réalité étrangère à son apparence ordinaire. Notre regretté confrère Bernard d'Espagna, en tirant les conséquences philosophiques, a conçu la notion du réel voilé. Il y a au fond de la matière quelque chose qui résiste de façon universelle et ce fond ne pourra jamais être atteint par la science. Jean-Noël Contensou est un polytechnicien qui a fait une carrière d'informaticien-logicien à partir de sa sortie de l'école, et ainsi contribuer au développement dans notre pays de l'industrie des logiciels, qui est une de nos forces dans la compétition internationale. Il se présente comme un autodidacte, disciple inconditionnel de Bernard d'Espagna. Il rappelle que la recherche d'une réalité du monde, le monde des gens et des paysages, au-delà des apparences mouvantes et provisoires, n'est pas réservée aux physiciens. Elle a suscité des aspirations religieuses et artistiques en quête de quelque chose de vrai, mais hors d'atteinte. Son idée est qu'il existe une filiation entre le réel voilé, perçu au niveau microscopique, et une notion de réel tout aussi voilé, de niveau macroscopique, une sorte de résurgence dans notre monde familier de l'énigme quantique. S'engageant dans une analyse fouillée des textes et utilisant largement des citations, il montre que Marcel Proust décrit comment une réalité lui échappe dans une expérience artistique de même niveau d'exemplarité qu'une expérience scientifique. Une réalité d'arbre au bord d'une route, éternelle et fuyante, au-delà de leur apparence, est révélée à une part de Proust tout aussi éternelle et fuyante. Le fond voilé de la physique microscopique s'étend à un tréfonds universel dont on ne peut rien dire tant qu'il ne se révèle pas à un artiste, ce que Jean-Noël Contensou appelle le réel natif. Pour sa démonstration, il n'hésite pas à utiliser plusieurs méthodes de réflexion. Celle socratique de Marcellus, Proust, descendu de l'Olympe, et engageant une conversation avec Aton, Platon, Démocrite, Mocrite et un berger. Celle voltairienne des lettres à Candide. Celle du blog d'Internet. Celle, enfin, du résumé auquel un lecteur éventuellement désorienté pourrait en permanence se référer en annexe finale. Dans la préface du livre, Bernard d'Espagna affirme d'emblée que ce qu'il convainc que la science ne peut et ne pourra jamais accéder au réel en soi, le tréfonds des choses, c'est la science elle-même, et non quelques révélations intérieures que nous aurions de ce dernier. Mais il a trouvé dans l'ouvrage de Jean-Noël Contensou le mérite de rendre plausible, je le cite, « un rapprochement entre nos deux grandes cultures, la littéraire et la scientifique, dont le divorce est, on le sait bien, une grande déficience de l'Occident. » Je continue à le citer. « Est-il véritablement plausible qu'entre la sensibilité proustienne et l'évanescence de la matière, il y ait plus qu'une branlante analogie ?» Le moindre mérite de Contensou est d'avoir courageusement rapproché ce qui semblait inconciliable, relié la réflexion au sens par des manières de voir présentant de la cohérence, et de l'avoir fait avec un bonheur d'écriture qui mène sur des points délicats, évite au lecteur des efforts de déchiffrement et lui permet ainsi de saisir l'essentiel. Fin de citation. Curieux rapprochement, dit l'auteur en introduction, ce lien entre Marcel Proust et la physique semble inexistant. Vouloir établir ce lien, c'est se placer délibérément dans un trou, un blanc du discours, aussi bien celui des exégètes de Proust que celui des physiciens. Mais pour aller voir quoi ? La quête de la réalité, une réalité en dehors du temps, sauter à pieds joints dans le fossé qui sépare esprit et matière, Dieu et le matérialisme. Je vais donc, s'il n'y a pas d'autres dépôts d'ouvrage, présenter Philippe Trénard, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'avoir accepté de parler devant nous aujourd'hui. Cher monsieur, diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble et licencié en sciences économiques, ancien élève de l'École nationale d'administration, vous avez occupé de nombreuses fonctions dans la haute administration entre 1981 et 1999, notamment en tant qu'attaché financier auprès de l'ambassade d'Allemagne, conseiller économique du cabinet du Premier ministre Édouard Balladur et sous-directeur au sein de la direction de la prévision au ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez aussi été chargé de la modélisation macroéconomique dans ce même ministère. Vous avez en outre été membre du Conseil d'analyse économique, de la Commission économique de la Nation, de la Commission d'orientation des retraites et du Conseil des prélèvements obligatoires. Vous avez enseigné l'économie et la finance à l'Institut d'études politiques de Paris, à l'Université Paris-Dauphine et à l'École des ponts et chaussées. Vous êtes membre du Cercle des économistes et rédacteur en chef de la Revue française d'économie. Vous participez également au comité de rédaction d'autres revues. Vous avez publié de nombreux travaux scientifiques sur l'économie, le risque, l'assurance et la solvabilité, qui ont été publiés dans des revues académiques françaises et internationales, telles que le Journal of Risk and Insurance, les Geneva Papers, Économie et statistiques, ou bien Risque. Vous avez reçu le prix 2010 de la Casualty Actuarial Society pour un article sur la titrisation publié avec David Cummins. Après avoir été directeur économique financier international de la Fédération française des sociétés d'assurance à partir de 2000, vous entrez à la société SCOR en 2006 en qualité de chief economist, puis directeur des risques et membre du comité de direction du groupe à partir de 2010. Depuis 2014, vous êtes chief economist et conseiller spécial du président. Et depuis le début de ce mois de février, vous avez rejoint l'École nationale d'assurance dont vous assurez la direction. Vous avez été, par ailleurs, nommé professeur titulaire de la chaire assurance du CNAM. Nous allons maintenant vous écouter présenter les réformes qui pourraient permettre d'assurer rapidement et durablement l'équilibre et l'équité de nos systèmes de retraite. Vous avez la parole.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, vous m'avez donc demandé comment assurer rapidement et durablement l'équilibre et l'équité de nos systèmes de retraite. Si, comme on vient de le voir, la réalité physique est parfois difficilement accessible, Jean-Baptiste Vico nous a appris que la réalité politique et sociale était plus aisément accessible puisque normalement, elle n'était jamais que le produit de l'action humaine, donc de notre action. En dépit des propos rassurants de tels responsables politiques ou de certains experts, la situation de notre système de retraite par répartition est préoccupante dès lors que l'on retient des hypothèses économiques et démographiques tendancielles. Même si l'on peut toujours critiquer ces hypothèses, n'est-il toutefois pas paradoxal que notre système, qui devrait être particulièrement prudent, particulièrement résistant, eu égard à la nature de ses engagements extrêmement longs, voire infinis, ne soit finalement pas capable d'affronter des situations qui ne déviraient que quelque peu des hypothèses optimistes qu'on pourrait faire. Afin de mieux comprendre les raisons de ce paradoxe, je vous propose de revenir tout d'abord sur les spécificités de notre système de retraite, ainsi que sur ses déterminants structurels de long terme. Nous verrons alors que les problèmes récurrents d'équilibre et d'équité du système français sont imputables à une incitation intrinsèque à la gestion au jour le jour, que l'on a beaucoup de mal à rattacher à une quelconque philosophie cohérente, et cohérente notamment avec la répartition. La première priorité consiste donc pour l'avenir à associer le retour à l'équilibre à une clarification de cette philosophie pour en tirer une discipline rigoureuse qui permette d'assurer à la fois équilibre et équité du système dans la stabilité des taux de cotisation. Afin de garantir l'équilibre, la pérennité de ce nouvel équilibre, il serait en outre souhaitable de l'accompagner d'un certain nombre de réformes institutionnelles qui aideraient grandement à limiter les incitations à la procrastination. De fait, le système des retraites français est un système extrêmement bizarre et extrêmement complexe qui défie toute tentative de rationalisation économique et sociale. Tout d'abord, c'est un régime qui se veut général et qui pourtant est parfaitement éclaté. Notre système est l'héritier du régime de Vichy qu'il a créé, ainsi que de la Libération et du programme de la Résistance qui en ont consolidé les bases et les principes. L'intention était de créer un régime général couvrant les besoins en assurance vieillesse de l'ensemble de la population en lieu et place de l'ancien système partiel, fragmenté et en capitalisation. Mais très vite, les systèmes professionnels ont repris leur autonomie et on compte aujourd'hui pas moins de 27 régimes de base. Un régime qualifié probablement indûment de général, deux régimes agricoles, quatre régimes de non-salariés non agricoles et 20 régimes spéciaux essentiellement du secteur public. Le régime de la fonction publique est à prestation définie, quand le régime général est à cotisation définie. Ces régimes disposent de taux de cotisation propres, de niveaux de prestations propres, de modes de calcul propres. Leurs disparités n'ont en général rien à voir avec les disparités de rémunération, puis La plupart de ces régimes n'ont pas les moyens de leur autonomie, car ils présentent des déséquilibres démographiques importants et ne doivent leur survie qu'à des ressources externes, telles que transferts de taxes, subventions d'État ou compensations démographiques, aux calculs parfois particulièrement étranges. La part de ces ressources extrêmes dans ces régimes autres que le régime général est souvent très importante, pouvant aller jusqu'à 60 ou 80% des ressources de ces régimes, dans le régime des mines, par exemple, de la SNCF ou de la RATP, au point qu'on peut se demander si ces régimes ressortissent encore de la logique de l'assurance et pas plutôt de la logique de la simple solidarité. Une situation pour le moins paradoxale, sachant que ces mêmes régimes versent les pensions les plus élevées de notre système de retraite. Parallèlement, les régimes complémentaires se sont mis en place, indépendamment du régime général, sur des bases à la fois différentes mais non point totalement dissemblables, puisqu'elles reposent sur un système par points, quand le régime général repose sur le salaire de référence. Sous la pression des pouvoirs publics, ces régimes vont toutefois intégrer d'autres régimes complémentaires, en ce sens tenter une petite unification, dans des conditions financières qui ont souvent été assez désastreuses pour eux sur le long terme. Deuxième caractéristique de notre système, il se veut par répartition, mais pourtant il se finance par dette, ce qui paraît contradictoire. Vichy et tous les gouvernements suivants ont réaffirmé avec force le rejet de la capitalisation au profit de la répartition. Il n'existe qu'une exception à ce principe, celui du régime de retraite complémentaire des indépendants, qui est en capitalisation depuis la loi Madelin de 1994. À cette exception près, notre système de retraite se veut donc un système exclusivement par répartition, au point de s'interdire jusqu'à la constitution de réserves en son propre sein. La logique d'un système d'assurance vieillesse par répartition est de financer normalement ses pensions à partir des cotisations versées dans le courant de l'année par les assurés. Le montant est a priori fonction du montant des cotisations. Si les rentrées de cotisations baissent, normalement, les pensions doivent aussi baisser. Mais le système français ne fonctionne pas comme cela. Quand les cotisations sont insuffisantes, il se met en déficit et s'endette. Grâce aux travaux du Conseil d'orientation des retraites, nous disposons maintenant d'un compte du revenu du système de retraite français et de ses composantes depuis 2002, pas avant. Sur la période 2002-2016, soit 15 ans, le solde de notre système de retraite a été 7 fois en équilibre, ou légèrement excédentaire, de 2002 à 2008, et 8 fois totalement déficitaire et dans des proportions bien plus importantes que celles où il a été excédentaire. En 2016, selon le Conseil d'orientation des retraites, il serait ainsi déficitaire pour un montant équivalent à 0,4% du PIB. Ce montant peut paraître pas faible ramené au PIB, mais sachant que les dépenses du système de retraite représentent un montant équivalent à 14,2% du PIB, cela veut dire que le déficit s'élève tout simplement à 3% des dépenses. Et si maintenant j'essaye de traduire cela en un cumul d'endettement depuis 2002, donc depuis que nous disposons d'un compte de revenus de ce système, de l'ensemble du système de retraite, eh bien on s'aperçoit que le montant cumulé de la dette depuis 2002 s'élève à 2,4% du PIB, soit 17% des dépenses. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant 2002 et je ne suis pas capable de faire un compte patrimonial à ce titre. Donc c'est probablement une sous-estimation. Mais sommes-nous toujours dans un système par répartition si la dette finance une part aussi importante des dépenses courantes ? La décapitalisation qu'implique le déficit et l'endettement viole en effet le pacte entre les régénérations sur lequel repose la répartition. Ce pacte impose en effet de financer les dépenses du système sur les ressources des générations courantes d'actifs et non sur celles des générations passées, comme la capitalisation, mais pas plus sur celles des générations futures, comme le fait l'endettement. La persistance du déficit du système de retraite nous fait donc a priori sortir de la répartition subrepticement pour entrer dans un système hybride, inconnu et sans logique économique ou sociale claire. Troisième caractéristique, nous sommes dans un système qui est obsédé par l'égalité mais qui porte atteinte au principe de base de l'équité. L'un des grands arguments contre la capitalisation est que, Outre qu'elle serait risquée, elle serait aussi inégalitaire et inéquitable. À partir de contributions identiques, les retraités recevraient des redirentes différentes en fonction des fluctuations des marchés financiers, avec un risque non négligeable de pauvreté à l'âge de la retraite. Et c'est ce constat-là qui a été fait, n'est-ce pas, par Vichy, puis par à la Libération, et qui a conduit à imposer la répartition. Si l'on considère que le taux de pauvreté des retraités, on pourrait penser que le pari a été gagné. En revanche, si l'on considère le niveau des pensions, le tableau change assez radicalement. On découvre des inégalités flagrantes. Le montant, par exemple, de la pension moyenne brute de droit direct pour une carrière complète est ainsi de 40 à 50% plus élevé dans la fonction publique civile ou dans les régimes spéciaux que dans le régime général. Cette inégalité est d'autant plus choquante que ces régimes ne peuvent verser, comme je l'ai dit, ce niveau de pension que parce que, en violation du principe de répartition, ils sont généreusement subventionnés par l'État. Toutefois, plus que cette inégalité, c'est le bilan des cotisations versées par rapport aux pensions reçues qui pose problème en termes d'équité. Le graphique 2 que vous trouvez sur votre table avec le jeu de graphiques, le graphique 2 présente par génération l'évolution du taux de cotisation moyen pour la vieillesse acquitté par un non-cadre en moyenne tout au long de sa carrière et le taux de remplacement net dont il bénéficiera en moyenne tout au long de la durée de sa durée de retraite. Il en ressort que le taux de cotisation moyen augmente systématiquement d'une génération à l'autre, tandis que le taux de remplacement net moyen diminue tout aussi systématiquement. Le taux de rendement global des cotisations recule donc significativement d'une génération à l'autre, ce que confirment d'ailleurs les simulations effectuées par l'INSEE à l'aide du modèle destiné. Ce constat ne vise pas du tout à suggérer ici que la hausse des cotisations ou la baisse du taux de remplacement serait illégitime. Elles le sont eu égard à l'équilibre du système. Elle suggère en revanche que la gestion actuelle du système aboutit à un traitement très inégal des différentes générations et qu'elle impose donc des transferts de charges importants et inéquitables entre les différentes générations. Encore, l'analyse ci-dessus ne tient-elle pas compte des déficits et de la dette accumulée par le système qui ajoute une couche importante de transferts de charges des générations présentes vers les générations futures. En fait, derrière le discours compatissant pour les retraités d'aujourd'hui se cache un véritable hold-up visant à soutenir le pouvoir d'achat par des baby-boomers aux dépens du pouvoir d'achat des retraités de demain. Quatrième caractéristique, c'est un système qui se veut hors marché, contre le marché, mais qui a besoin néanmoins du marché pour corriger ses atteintes à l'équité. Dans la philosophie de ses créateurs, qui avaient à l'esprit la crise de 1929 et les faillites financières des années 30, il était important que tous ces régimes fonctionnent en dehors des mécanismes du marché. Cette philosophie a toutefois eu une contrepartie coûteuse en termes d'efficacité. N'étant pas soumise à la concurrence, ces régimes ne sont pas incités à s'adapter rapidement aux circonstances et aux défis auxquels ils ont été confrontés. Ils sont ainsi enclins à tergiverser, d'autant plus que la proximité de la puissance publique leur donne une incitation à procrastiner et à préférer à court terme la dette dans l'espoir de porter leurs problèmes à l'attention du politique et de bénéficier finalement d'un soutien public dont la gestion est plus confortable qu'une gestion rigoureuse. Ceci explique leur problème de financement récurrent, puisque personne n'est empressé de rétablir les comptes. Le retour à l'équilibre, parce qu'il a été retardé, en devient plus coûteux en termes de hausse de cotisation et de baisse de prestations. La tentation est alors grande de jouer du violon social et de redistribuer en réduisant plus les pensions de ceux qui ont contribué le plus, car ils sont aussi les plus riches. Et de fait, comme le montrent les graphiques 3, si le taux de remplacement en pourcentage du dernier salaire net va rester élevé pour les smicards, les chômeurs et les enseignants, et va leur maintenir un niveau de vie à la retraite qui est en fait supérieur à leur niveau de vie en tant qu'actifs, celui des cadres a d'ores et déjà fortement chuté et va continuer à chuter. Ils vont donc a priori devoir épargner pour la retraite, s'ils veulent maintenir un certain pouvoir d'achat de la retraite par rapport à leur vie active. Ceci serait en soi une bonne chose, Mais l'État, par principe hostile à la retraite par capitalisation, maintient un traitement fiscal et social extrêmement pénalisant et dissuasif de l'épargne retraite. En conclusion de cette première analyse du système français, vous me permettrez de dire que ce système de retraite tranche totalement par rapport aux systèmes étrangers qui sont en pratique à la fois beaucoup plus cohérents dans leurs choix, mais qui sont aussi beaucoup plus flexibles dans l'application qu'ils font des principes. Les systèmes étrangers sont dans l'ensemble plus cohérents, finalement, plus équitables et plus équilibrés. En fait, le système français souffre de sa gestion très politisée. Et pourtant, un système par répartition, tel que l'a choisi la France à la Libération, est par nature un système relativement simple à gérer, dans le respect d'un minimum d'équité. Ce n'est pas compliqué. L'équilibre d'un système de retraite par répartition dépend tout d'abord d'un petit nombre de variables démographiques et économiques qui sont soit prévisibles, soit assez largement maîtrisables. En fait, l'équilibre dépend de trois variables démographiques, les comportements de fécondité ou de natalité, l'espérance de vie et des flux migratoires. Il dépend aussi de trois variables économiques, quatre variables économiques, l'âge d'entrée dans la vie active, l'âge de départ à la retraite, la durée du travail pendant la durée active et le taux d'activité ou d'emploi durant la période où on est potentiellement actif. Je vous propose d'examiner plus en détail ces variables ainsi que leur évolution passée et future et leur contribution aux défis de notre système de retraite. Parmi les variables démographiques, permettez-moi d'insister sur la natalité et l'espérance de vie en laissant de côté les flux migratoires dont l'impact sur les régimes de retraite est aujourd'hui difficile à analyser correctement et complètement en l'absence de statistiques suffisantes, notamment par âge, sur le vieillissement des cohortes d'immigrés. L'indicateur démographique pertinent pour analyser les défis démographiques de notre système de retraite est le ratio démographique qui rapporte le nombre de personnes en âge d'être actives, pas nécessairement actives, mais potentiellement en âge d'être actives dans une économie. On rapporte ce chiffre-là au nombre de personnes qui ne sont plus en âge d'être actives. Selon l'âge normal d'entrée en activité, il est de 21 ans en moyenne en France, un niveau assez élevé, et l'âge normal de sortie pour la retraite, elle est environ 60 ans, c'est-à-dire par comparaison internationale, un âge plutôt bas, on obtient différentes valeurs du ratio si on prend 20-60 ans comme limite, 25-65 ans, 20-65 ans, 15-65 ans, voire 15-70 ans. Mais quels que soient les âges retenus, tous ces ratios baisse à des rythmes similaires en France, comme le montre le graphique que 4. D'un peu plus de 3 personnes de 20 à 60 ans pour une personne de 60 ans et plus en 1950 et en 1980, on est passé à 2 personnes en 2015 et on ne devrait plus en avoir que moins d'une et demie en 2050. Cette baisse reflète le vieillissement de notre société. Elle induit des tensions croissantes sur notre système de retraite, tensions qui étaient cependant prévisibles et prévues en 1980 pour la période 1980-2015 et que l'on peut aujourd'hui anticiper pour la période 2015-2050. Le baby-boom, suivi par la baisse de la natalité et l'allongement de la durée de vie, surtout aux âges extrêmes, explique cette chute qui est d'autant plus forte que les gains de longévité se concentrent de plus en plus sur les âges élevés et donc sur les retraités, comme le montre le graphique numéro 5. Du côté des variables économiques structurelles, les variables et clés sont l'âge effectif d'entrée sur le marché du travail, l'âge effectif de départ à la retraite, la durée du travail et le taux d'emploi. L'indicateur économique finalement pertinent pour apprécier les tensions qui s'exercent sur le système de retraite serait alors celui du nombre d'heures de travail par personne retirée. Combien chaque personne qui se retire a en face d'elle d'heures de travail qui pourraient plus ou moins lui être affectées ou sur lesquelles il va falloir prélever pour financer les retraites. Entre 1980 et 2015, cet indicateur a chuté aussi vite que le ratio démographique. Ce qui veut dire que, dans l'ensemble, l'activité économique n'a pas contribué à absorber le choc démographique. De fait, la période de 1980-2015 a été marquée par deux décisions que je considère comme désastreuses pour l'équilibre du système de retraite, la réduction de l'âge de départ à la retraite à 60 ans et la baisse de la durée du travail à 39 puis 35 heures. Ces deux mesures à elles seules ont tout simplement doublé le choc démographique lié au vieillissement. Et l'allongement ultérieur de la durée de cotisation mise en œuvre à partir de la réforme de 1993 entamée par Balladur, suivie par les réformes Fillon et les réformes Woerth, n'a fait que compenser les effets de ces mesures désastreuses. Mais en revanche, elle n'a pas été suffisante pour compenser l'effet du choc démographique, même pour l'amoindrir. D'ici 2050, si la durée du travail et le taux d'activité sont stabilisés à leur niveau actuel, l'allongement de la durée de cotisation qui devrait se poursuivre du fait de ces réformes contribuerait partiellement à l'absorption du choc démographique qui va se poursuivre sur cette période. Si les variables et donc la situation démographique et économique étaient claires, il faut aussi voir que les paramètres qui permettent d'équilibrer un système de retraite par répartition sont a priori bien connus, peu nombreux et simples à manipuler. Les pouvoirs publics ne disposent finalement, grossièrement parlant, que de quatre paramètres pour équilibrer le système. La durée du travail, vous travaillez plus, ça permet de maintenir les cotisations stables, par exemple. Le taux de cotisation, le niveau relatif des pensions par rapport au niveau des salaires et l'âge effectif de départ à la retraite, lequel dépend à la fois de l'âge légal de départ à la retraite et des conditions de durée de cotisation dont vous savez qu'elles se combinent parfois de façon assez complexe. L'équation du système de retraite est donc d'une très grande simplicité. La tendance des gouvernements à procrastiner par rapport au retour à l'équilibre des comptes ne vient donc pas de la complexité technique du sujet, mais de choix politiques. Les problèmes surgissent quand les pouvoirs publics cherchent à préempter ces différents paramètres pour d'autres usages politiques, comme l'âge de la retraite ou la durée du travail. Quelle que soit la légitimité de ces usages, il est en tous les cas intolérable que l'on ne soit pas capable d'assurer l'équilibre et la pérennité d'un système dont on a choisi les principes et que l'on a imposé, principes que l'on a imposés erga omnes, sans passer par des crises sociales et des drames politiques qui se terminent immanquablement par des décisions sommaires et donc mauvaises. C'est ainsi que les gouvernements qui procrastinent se rabattent finalement sur la seule solution simple qui est la hausse des recettes, puis ultimement, quand celle-ci ne suffit pas, sur la redistribution aux dépens de l'équité entre les différentes générations. Or, pour assurer un équilibre équitable du système, les recettes ne sont pas très compliquées. Il suffit de respecter quatre règles que je qualifierais de quatre règles d'or. La première règle consiste à affirmer que le déficit doit être prohibé, car il porte atteinte à l'équité. L'idée selon laquelle le système de retraite pourrait être en déficit pour des périodes plus ou moins longues, notamment en bas de cycle, est frelatée pour quatre raisons principales. Connaissant les spécificités de la demande des retraites, et notamment leur propension élevée à épargner, il n'est pas sûr que cet usage du système des retraites ait les vertus keynésiennes attendues. En outre, en termes d'équité, il n'y a aucune raison d'immuniser les retraités par rapport aux fluctuations de leur environnement économique, dont il serait normal qu'ils partagent du sort. Pourquoi les retraités deviendraient-ils riches quand toute la société devient pauvre? De plus, l'endettement à la fois contredit le principe de la répartition, qui suppose que l'on répartisse, comme je l'ai dit, les seules recettes courantes, mais il porte aussi atteinte à l'équité, dans la mesure où il transfère la charge des retraites d'aujourd'hui sur les générations futures. Enfin, l'expérience montre que le déficit est source d'addiction, c'est-à-dire qu'il tend à se reproduire et se perpétuer comme les mauvais virus. Deuxième règle d'or, me semble-t-il, c'est que la hausse des cotisations sociales doit être évitée dans toute la mesure du possible en raison des problèmes à la fois d'efficacité économique et d'équité économique qu'elle pose. Cette contrainte est cependant contestée par beaucoup d'experts du social qui estiment que face au choc démocratique que nous connaissons, il faut augmenter les cotisations sociales pour préserver le niveau de vie des retraités. En fait, l'efficacité et l'équité recommandent le contraire, c'est-à-dire d'éviter ces hausses, les hausses de cotisations employeurs en raison de leurs effets pervers en termes d'emploi. En effet, une hausse de cotisations d'employeurs accroît les charges des entreprises qui les répercutent alors mécaniquement sur le marché du travail par le biais d'une baisse de la demande d'emploi. Ce qui est donc gagné d'un côté avec la hausse de cotisations est donc perdu de l'autre côté avec la baisse de l'emploi, et ceci au prix d'un coût humain extrêmement élevé en termes de chômage. La hausse des cotisations employeurs revient en fait à un transfert de charges doublement négatif et parfaitement inéquitable aux dépens des actifs. Viennent ensuite deux règles que je vais traiter en même temps. La troisième règle nous dit que l'accroissement de l'espérance de vie doit être partagé proportionnellement entre l'allongement de la durée de vie active et l'allongement de la durée de vie à la retraite. C'est-à-dire quand ma vie croît, je dois travailler un peu plus et avoir un peu plus de retraite, faire un partage équitable entre ces deux moments de ma vie. Et la quatrième règle, qui lui est liée et avec laquelle elle est très interdépendante, dit que les variations de la durée du travail doivent être compensées par des variations équivalentes de la durée de vie active. Si je baisse la durée du travail, je baisse naturellement ma capacité à lever des cotisations et je dois le compenser quelque part par un allongement de ma durée de vie active pour maintenir ma capacité de cotisation. Moyennant une arithmétique assez simple, on montre qu'en régime de croisière, le respect de ces deux dernières règles, que l'on peut considérer vraiment comme les règles d'or les plus importantes, assure tout à la fois l'équilibre et l'équité du système de retraite par répartition. Elle procure en effet un équilibre où, d'une part, les retraités reçoivent en moyenne autant qu'ils ont cotisé, moyennant une actualisation de ce qu'ils ont cotisé, ce qui correspond à l'équité à l'intérieur d'une génération. D'autre part, les retraités bénéficient d'un niveau de vie proportionné au niveau de vie des actifs, ce qui correspond à l'équité entre les générations. Les chocs démographiques peuvent être alors absorbés par une déviation par rapport à la troisième ou à la quatrième règle en allongeant ou en raccourcissant la durée de cotisation par rapport à la durée de retraite ou à la durée du travail, selon que le choc est négatif, baisse de la natalité par exemple, ou positif. De fait, cela revient à répondre aux défis démographiques auxquels nous sommes confrontés par un accroissement de richesse générale plutôt que par un appauvrissement. Cela revient à considérer que l'allongement de la durée de vie est une source d'enrichissement plutôt qu'une source de problème. En revanche, notre système ayant violé ses règles d'or, il n'a pu, entre 1980 et 2015, absorber le choc démographique qu'au prix de problèmes financiers récurrents et en augmentant les cotisations, notamment les cotisations employeurs, et en sous-indexant les pensions en violation, tout cela en violation de l'équité intra- et intergénérationnelle. Que faut-il donc faire maintenant pour remettre le système sur les rails? Il faut immédiatement mettre fin au déficit de notre système de retraite. C'est la première priorité, c'est un impératif. Et il faut ensuite mettre en œuvre six réformes institutionnelles qui me semblent nécessaires pour assurer la pérennité de l'équilibre retrouvé et son équité. Depuis 2009, le système de retraite français est en déficit important, égal ou supérieur à 0,4% du PIB, comme je l'ai dit. D'ici 2050, la sous-indexation des pensions continuera à contribuer, ainsi que l'allongement de la durée de cotisation continueront à contribuer à l'absorption de ce choc. Mais elles ne suffiront pas à l'absorber. à législation inchangée et sous des hypothèses macroéconomiques tendancielles, notamment un taux de chômage dans la moyenne de ces 10 à 20 dernières années de 9 à 10% et une croissance de la productivité aussi dans la tendance des 10 à 20 dernières années, c'est-à-dire de 1 à 1,25%, notre système de retraite devrait rester déficitaire tout au long de la période et chaque année de cette période, comme le montre le graphique 6. Une très légère amélioration en débit de période qui bénéficiera des derniers effets des réformes antérieures sera suivie d'ici quelques années d'une détérioration rapide et substantielle. Certes, avec des hypothèses plus optimistes pour son scénario central, notamment un taux de chômage revenant à terme à 7%, une croissance de la productivité qui rejoindrait le niveau des années 90 de 1,5%, le Conseil d'orientation des retraites aboutit à une conclusion de retour à l'équilibre en 2025, dans 10 ans quand même. Mais sachant que les discussions économiques actuelles portent plus sur le risque d'une stagnation séculaire que sur la perspective d'un fort rebond de l'activité, il nous semble impératif que notre système de retraite puisse à minima être résilient à une situation qui verrait les tendances actuelles de l'économie se poursuivre dans les années suivantes et qui viennent. C'est la prudence minimale qu'on est en droit d'exiger d'un tel système et il nous faut donc agir en ce sens sans attendre pour cela, cette mesure me semble nécessaire qui, selon moi, recouvre un impératif et 6 réformes institutionnelles prioritaires. Un impératif. Il faut restaurer immédiatement l'équilibre du système et des régimes qui le constituent sans augmenter les cotisations. Et il faut prohiber pour l'avenir tout déficit. Il n'est pas possible d'attendre un hypothétique retour à bonne fortune pour amener notre système de retraite à l'équilibre, d'autant que de nombreuses mesures mettent plusieurs années à produire leurs effets. Repousser le retour à l'équilibre n'aurait que des coûts financiers, économiques et sociaux et aucun gain. Comme il faut à tout prix éviter une hausse des cotisations dont les effets pervers sont d'autant plus dommageables que notre économie n'est pas en excellente santé, c'est donc sur le partage entre le temps de travail et le temps de retraite qu'il faut agir. Ce qui n'aura pu être couvert à court terme par ce biais devra donc l'être par une indexation des pensions. On pourrait naturellement envisager de ne solliciter que les cotisations salariées sans les cotisations employeurs, mais l'expérience nous montre que tant que l'on conserve le principe de cotisation employeur, une telle solution et une telle option ne sont pas politiquement réalistes. J'ajoute que pour l'avenir, toute possibilité de déficit donc doit être prohibée strictement. Première réforme institutionnelle à associer à ce retour immédiat et impératif à l'équilibre. Il faut contenir les charges de retraite à l'intérieur d'une enveloppe impérative qui ne devrait pas dépasser 13,7% du PIB. Ce devrait être au Parlement de définir cette enveloppe pour une législature. Le taux de 13,7% du PIB imposerait de ramener les charges de retraite au niveau relatif des ressources du système en 2016 et de le maintenir à ce niveau, qui est néanmoins un niveau élevé du point de vue des standards internationaux. Il appartiendrait alors au gouvernement de déterminer sur quels paramètres jouer, la durée du travail, le partage entre temps de travail et temps de retraite ou l'indexation des pensions, pour assurer en permanence l'adéquation entre cette enveloppe et les dépenses à taux de cotisation constant. Deuxième réforme institutionnelle, il faut constituer des réserves au sein des régimes par répartition de façon à leur permettre d'absorber les chocs conjoncturels et de lisser ce qui reste encore à absorber du choc du vieillissement. La prohibition du déficit et la stabilisation des taux de cotisation ne sont crédibles que si le système de retraite et les régimes qui le constituent accumulent rapidement et suffisamment de réserves pour absorber avec une probabilité suffisante les déviations par rapport aux tendances économiques et démographiques prévues, à l'instar de ce que font les assureurs, par exemple lorsqu'ils proposent des produits de retraite. Pour des engagements longs comme la vieillesse, l'absence d'exigence en capital dans les régimes de retraite par répartition est pour le moins surprenant. Certes, on fera valoir que le système bénéficie de la garantie de l'État, Mais d'une part, cette garantie n'est qu'implicite. D'autre part, elle n'a jamais fonctionné que de façon sélective. De fait, c'est la dette et finalement les cotisations qui ont absorbé les chocs passés. Pour éviter cela à l'avenir, il faut donc imposer au régime de retraite par répartition une exigence incapitale qui pourrait être, par exemple, inspirée des règles de solvabilité 2. Enfin, pour s'assurer de l'effectivité de la mesure, il faudra définir précisément les obligations concernant la dotation annuelle aux réserves, ainsi que les conditions de tirage sur les réserves. Sinon, ces réserves seront insuffisamment dotées, puis siphonnées par les pouvoirs publics, comme l'a été le fonds de réserve des retraites. Certains s'inquiéteront peut-être de ce changement de culture. Pourtant, de nombreux régimes étrangers par répartition, comme en Suède, voient dans le recours à la capitalisation collective un complément utile à la répartition. Troisième réforme institutionnelle, il faut porter l'âge légal de départ à la retraite à 67 ans, accélérer la remontée de la durée de cotisation et porter celle-ci à 180 trimestres, voire 188 trimestres. Le graphique 4 montre que pour stabiliser notre ratio démographique jusqu'en 2050, il faut au moins repousser l'âge de la retraite à 65, voire 67 ans. Dans l'idéal, 67 ans nous permettrait de nous aligner sur l'Allemagne. Cet âge doit être impératif pour le bénéfice de la retraite à taux plein et exclusif de toute disposition au titre de la pénibilité et des carrières longues qui n'ont plus de justification dans nos économies avancées. Pour être pleinement efficace, la mesure doit être accompagnée d'une accélération de la remontée prévue de la durée de cotisation et d'un allongement de celle-ci de 172 trimestres prévus actuellement à 180, voire 188 trimestres. Moyennant quoi, l'équilibre du système de retraite par répartition pourrait être respecté sans hausse de cotisation ni baisse supplémentaire du taux de remplacement, si l'on utilise tout au moins l'instrument de simulation des comptes mis à la disposition du public par le Conseil d'orientation des retraites. Ces mesures sont réalistes car l'état de santé des Français le permet. Comme le montre le graphique 7, l'espérance de vie aux âges élevés va continuer à s'améliorer. Ce sont même pour ces âges que les possibilités de progrès sont aujourd'hui les plus importantes. En outre, comme le montre le graphique 8, la durée de vie en bonne santé s'est fortement allongée au-delà de 65 ans. Les travaux récents de l'ISTRE confirment d'ailleurs ce constat. Ils montrent que l'état de santé actuel des Français autoriserait les hommes et les femmes de 60 à 64 ans, avoir un taux d'activité supérieur de 45 à 60 points à ce qu'il est aujourd'hui. Les Français ne devraient normalement pas avoir d'objection à cet allongement, dans la mesure où, comme le montre le graphique 4, leur propre perception de l'espérance de vie en bonne santé est même plus optimiste que celle des statistiques. Quatrième réforme institutionnelle, il faut flexibiliser le marché du travail pour les seniors, et déréglementer le passage à la retraite. Le relèvement de l'âge effectif de départ à la retraite suppose que les seniors trouvent un travail sur le marché du travail. Elle suppose donc de flexibiliser le marché du travail des seniors, qui a non seulement été largement asphyxié par les pré-retraites et l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, mais qui est aussi l'un des segments les plus réglementés du marché du travail. Il faut remettre en cause les règles d'ancienneté, les obstacles au licenciement des seniors à partir de 50 ans, qui rendent extrêmement difficile, car coûteux, le recrutement des seniors en France, une situation qui n'a d'équivalent ni en Allemagne, ni au Royaume-Uni, ni en Suisse. Parallèlement, il faut faciliter toutes les formes de transition souple et progressive entre emploi et retraite, en libéralisant sur ce point et le droit du travail et le droit social. Il est notamment souhaitable de mettre en place un système de décote sur cote actuariellement neutre qui donne les bonnes incitations pour le choix de l'âge de départ à la retraite et sur le caractère progressif de ce départ. Cinquième réforme institutionnelle que je propose à votre attention. Il faut, selon moi, aligner intégralement et immédiatement les règles sur les règles du régime général, les règles des régimes de retraite qui ne sont pas encore alignés. Cet alignement correspond à une exigence d'équité. La mesure vise tout particulièrement les régimes spéciaux ainsi que le régime des pensions de l'État qui servent des pensions à prestations définies indexées sur le dernier salaire et sensiblement supérieures à la moyenne. L'alignement est d'autant plus nécessaire que ces régimes ne seraient pas en mesure de financer ce niveau de pension, comme je l'ai dit, sans la subvention qu'ils reçoivent de l'État. Dans l'idéal, il serait même souhaitable d'aller au-delà et d'unifier les régimes, l'ensemble des régimes généraux ainsi que les régimes complémentaires en un seul régime véritablement général servant des prestations identiques à tous sur la base de taux de cotisation similaires, mais c'est peut-être trop en demander pour le court terme. Dernière réforme institutionnelle que je suggère, elle consiste à faire converger dès à présent l'ensemble du système des retraites par répartition vers un régime en points. Un régime par points, similaire à celui des régimes complémentaires, présente l'intérêt d'assurer une équité objective entre les retraités et entre les générations. Dans ce système, la valeur du service du point permet de relier le montant des droits à pension accumulés par les retraités au montant des cotisations disponibles, en divisant tout simplement ces cotisations par le nombre de points accumulés par l'ensemble des retraités. Puis elle permet de répartir cette masse de façon équitable entre tous les retraités en divisant cette masse, juste en multipliant plutôt la valeur du point par le nombre de points accumulés par chaque retraité. Ce système est optimal dans la mesure où il permet de relier de façon simple, transparente, univoque et équitable le niveau des pensions au niveau des cotisations levées la même année. Il est conforme à l'esprit de la répartition puisqu'il ne répartit que le seul produit des cotisations levées. Cette tâche de convergence devrait être lancée immédiatement, sachant que la transition prendra une génération entière. Le vieillissement est un fait social fondamental qui devrait nous conduire à repenser toutes les dimensions de nos sociétés. Il résulte principalement de l'allongement de la durée de vie, tout particulièrement de son allongement aux âges élevés, qui est un progrès extraordinaire et qui bouscule tous les équilibres sociaux. La société entière est en train de s'adapter à cette situation inédite et complexe qui aboutit à la cohabitation de quatre générations appartenant à des environnements familiaux beaucoup plus éclaté que par le passé. Donc plus de générations dans des cadres familiaux plus éclatés et plus divisés. Le partage de notre vie entre vie personnelle et vie professionnelle, entre temps de travail et temps de retraite, ne peut plus être pensé dans les cadres du passé. Contrairement aux années d'après-guerre, ceux qui partent aujourd'hui à la retraite sont encore en pleine force de l'âge et désireux de contribuer à la création de richesses économiques, comme en témoigne l'intense activité bénévole des retraités. Dans ce nouvel environnement, la protection sociale ne peut plus rester le dernier bastion des vieux mythes mobilisateurs de la revendication sociale du début du siècle dernier. S'il veut perdurer, notre système de retraite doit revenir à l'équilibre et retrouver un minimum d'équité, et il ne peut le faire qu'en s'appuyant sur de nouveaux partages de notre vie entre temps de travail et temps de retraite. L'Allemagne y est arrivée, pourquoi pas nous ? Les mesures que j'ai proposées devraient y aider, mais d'autres que je n'ai pas abordées, car elles dépassent le cadre de notre réflexion aujourd'hui, pourraient aussi y contribuer. Ainsi, pour assurer le maximum de degrés de liberté à nos concitoyens dans leurs choix, faudrait-il encourager l'épargne retraite et la capitalisation ? De même, faudrait-il enfin se décider à traiter le problème de la dépendance en encourageant fiscalement et socialement la constitution d'une couverture dépendance, si possible par capitalisation, plutôt qu'en créant une hypothétique nouvelle branche de sécurité sociale qui ne ferait que transférer une nouvelle charge aux générations futures. Les défis du vieillissement sont importants et nombreux. Ce sont des opportunités plus que des contraintes. Vivre plus longtemps en bonne santé est un formidable progrès, mais il ne faut pas laisser la mauvaise gestion de notre système de retraite transformer cette bonne nouvelle en une mauvaise nouvelle. Je vous remercie, Monsieur le Président.